Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Vincent Lindon est notre acteur de la semaine. Il est une fois de plus impressionnant dans le film de Xavier Giannoli, L'Apparition, qui sort mercredi en salle. On retrouve dans un instant avec Stéphane Boutsock. Il sera notre invité. Le spectacle musical Bodyguard, adapté du film avec Whitney Houston et Kevin Costner, vient de s'installer au Palais des Sports de Paris avant une tournée partout en France. Stephen Bellery a assisté à une des premières représentations, à suivre son compte-rendu. Et puis à la télévision ce soir sur France 2, le retour de la série Ridley & Isles pour une 7e saison et sur M6 à 21h, un long format inédit du programme humoristique Scène de ménage. Ce seront les choix d'Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Bonjour Vincent Lindon.
Bonjour.
Nous commençons donc cette émission avec vous, à deux jours de la sortie d'un film impressionnant qui s'appelle L'Apparition, réalisé par Xavier Giannoli. Avant d'en parler avec Stéphane, ce constat, après La Loi du Marché, après Rodin, c'est encore et un film, et un rôle surtout, dense, profond, sombre aussi. Est-ce que c'est ce dont vous avez besoin pour avancer ?
Je ne sais pas si j'en ai besoin, envie, si je suis obligé, si je fais ça pour, en fait, comme un tuteur, pour que ma vie, éventuellement, serve un tout petit peu à quelque chose pour moi, pour les gens. Il y a longtemps que j'ai perdu espoir qu'elle change quelque chose, mais je pense que acteur pour faire des rôles qui ne me passionneraient pas plus que ça ne m'intéresserait pas. Je me sers de ce métier aussi pour apprendre des choses, pour m'obliger en tant qu'humain à me conduire un peu autrement. Et donc je fais l'inverse, je crois, de beaucoup de gens. Par les rôles que je fais, ils m'obligent, une fois fait, à ne pas les décevoir. Moi, Vincent, je ne peux pas décevoir les personnages que j'ai été, donc je peux pas. J'essaie de ne pas être en dessous. En faisant La Voix du Marché, je m'interdis qu'on me retrouve sur une cigarette à Saint-Tropez. En faisant Welcome, je m'interdis est-ce que je mange dans des restaurants où les additions valent quelquefois le quart du SMIG. Le fait de faire tout ça pour ne pas tomber dans les excès prouve déjà que je suis pas un mec si détestable que ça. Sinon, je ferais les choses.
C'est bien ce
Mais
que je
chacun
pensais.
Fait comme il peut, comme il veut.
Ben voilà une belle entrée en matière. Alors Stéphane, parlons de cette apparition. Vous avez une image très parlante pour évoquer la sensation incroyable que procure le film de Xavier Giannoli.
Vous prenez la profondeur de Thérèse d'Alain Cavalier et vous ajoutez le côté thriller mystique du Da Vinci Code. C'est pour moi la prouesse, le miracle, je dirais, accompli par Giannoli dans son film. Nous tenir en haleine 2h17 durant, en parlant de sujets aussi profond que le mystère, la foi, la vérité, le mensonge. Dans L'Apparition, Vincent, vous êtes déjà grand reporter d'un quotidien régional, rescapé d'un séjour au Moyen-Orient. Un de vos camarades a été tué. Alors que vous pensez ou essayez de penser vos plaies morales et physiques, vous allez recevoir un coup de fil étrange, une invitation au Vatican. Là-bas, on est au cœur de la chrétienté. On vous demande d'aller enquêter dans le sud-est de la France où une jeune fille, Anna, affirme avoir vu la Vierge Marie et reçu d'elle un message. Cette apparition commence à inquiéter l'Église qui vous envoie sur place, vous, le novice en matière de religion, participer à une enquête canonique qui devra déterminer si Anna ment ou pas. Extrait.
La première fois, c'était il y a 2 ans, en septembre. Et il n'avait plus toute la journée.
Vous étiez seule ?
Oui. Et c'est en arrivant près du premier refuge que j'ai vu une lueur.
Qu'est-ce que ça veut dire, une lueur ? Vous pourriez nous décrire plus précisément ?
Je croyais que c'était le soleil qui faisait briller l'eau.
Vous avez été ébloui ? Vous avez détourné le regard ou fermé les yeux ?
Non, c'était une lumière douce. C'est quand je me suis rapprochée que j'ai vu une forme humaine.
Vous avez pensé que c'était quelqu'un ? Enfin, je veux dire quelqu'un de réel ?
Non, je savais que c'était autre chose.
Quoi ?
Une très belle femme, avec un voile et une cape très simple. Ensuite, j'ai entendu une voix.
Alors à partir de là, vous découvrez l'incroyable présence d'Anna, son impact sur la population, mais aussi comment en coulisses, certains essayent de récupérer le phénomène pour des raisons, alors là, tout sauf spirituelles. En essayant de démêler le faux du vrai, votre personnage va aussi être confronté à ses croyances intimes, ses démons, faire face à de troublantes coïncidences. L'Apparition est un très grand film, le meilleur, à mon humble avis, de Xavier Giannoli. On se rappelle évidemment de Quand j'étais chanteur, de À l'origine ou de Marguerite. Est-ce que cette histoire-là, comme pour Jacques, votre personnage, Vincent, vous a intimement remué ?
La réponse est oui. J'essaye tout le temps, quand je fais un film, de ne jamais prendre d'avance sur mon personnage, éventuellement du retard, mais jamais d'avance. Je lis le scénario une fois, deux fois, après j'apprends mon texte évidemment, mais je refuse toute discussion avec le metteur en scène psychologique où il pourrait me donner des indications sur le personnage que le personnage n'a pas encore découvert au travers de l'histoire. J'aime bien rester à la même hauteur. Je suis très... j'aime incarner et pas jouer. Et j'aime me poser les mêmes questions au moment où on tourne une scène, éventuellement que le personnage se pose. C'est-à-dire que les étonnements, les angoisses, les peurs ou les fureurs sont exactement synchrones avec celles du personnage.
Mais ça veut dire que vous ne vous imprégnez pas, par exemple, du sujet. Vous auriez pu rencontrer des enquêteurs qui traquent des cas avérés.
Parce que c'est une apparition.
Mais surtout pas, puisque le film commence où il va lui-même être enquêteur et il ne sait rien de rien. Je ne lis jamais un livre qui est le livre du, par exemple, d'où est tiré le scénario. Je ne m'intéresse qu'à une chose, c'est comment il est habillé, comment il bouge, quelle est sa voiture, comment je vais bouger. Mais si je commence à rencontrer des enquêteurs, donc des Jacques Maiano, ils vont donc me dire des choses que je vais savoir avant de découvrir moi-même l'enquête. Et donc je vais forcément être influencé par ça. Donc c'est fini, c'est plus pareil. Donc je ne veux rien savoir des personnages.
Stéphane. Vincent, c'est un rôle tout sauf anodin, parce qu'il parle de la foi, du fait de croire ou pas. Et alors vous, en tant qu'acteur, vous êtes là pour nous faire croire ou pas en un rôle. Est-ce que c'est mon esprit malade ou est-ce qu'il y a un effet miroir quand même dans tout ça? C'est une mise en abîme assez intéressante quand même. On doit croire en Vincent Lindon dans le rôle de Jacques.
Alors, c'est drôle que vous posiez cette question. Enfin, c'est très intéressant parce que Xavier Giannoli, les deux choses qu'il a fait quand il m'a rencontré pour le film, il m'a d'une part montré des films de vraies apparitions. Je vous prie de croire que ça se coud, hein. Comme ça, là, de but en blanc, il m'a dit, mais regarde. Et il m'a montré des films sur des apparitions. Et la deuxième chose, il m'a dit, j'aime bien dire aux acteurs pourquoi je viens les voir. Toi, par rapport au film que t'as fait, parce qu'un acteur, c'est aussi une carrière, c'est aussi plein de rôles par lesquels il est passé. Montre-moi ce que tu as joué, je te dirai qui tu es un petit peu quand même. Il me dit, chaque fois, on croit à toi dans un personnage. Donc, moi, pour faire passer l'idée d'un personnage qui se demande s'il faut croire ou pas croire en quelque chose, je me suis dit, si Vincent, j'allais dire Vincent Lindon en troisième personne, mais c'est lui qui me parle.
C'est Giannoli qui parle.
Si Vincent croit en quelque chose ou se demande juste s'il faut y croire, alors les gens pourront suivre. Par exemple, si vous commencez un film avec Jean-Paul Belmondo il y a 25 ans qui a peur d'une araignée, c'est pas la peine de continuer le film. On ne rentrera pas dans le film. Parce qu'il n'a pas peur des araignées, forcément, puisqu'il se prend des hélicoptères.
Ce que vous venez de nous dire, Vincent Lindon, amène une autre question, et c'est normal que tous ceux qui vous aiment et qui iront vous voir au cinéma dans ce rôle se la posent. Alors, la foi...
On sera peu, s'il n'y a que ceux qui m'aiment.
La foi, le fait religieux, le mystique, est-ce que ce sont des sujets qui vous intéressent et qui vous concernent?
Franchement, non.
Vous êtes croyant?
Je ne connais pas mes secrets. Je ne sais pas si je suis croyant. Je ne sais pas si ça veut dire être croyant. Je suis tenté de bien vouloir croire les gens qui croient et qui me parlent de la croyance. Pour l'instant, c'est mon stade maximum. Il m'est arrivé de prononcer cette phrase à l'âge de 9 ans et de dire Dieu, fais que j'ai 17 en maths. Alors, je suis croyant ou je suis pas croyant? Je pense que je crois dans des choses, je crois dans des coïncidences, je pense que je crois dans le fait que on a une bonne étoile, une mauvaise étoile, donc un peu croyant quand même. Mais je ne pratique pas aucune des religions et la religion catholique n'est pas ma religion. Donc, mais par contre, j'ai adoré être vierge, si je puis le dire, pour aller faire ce rôle parce que j'étais donc un très très bon réceptacle pour ne mettre aucune attention supplémentaire à l'écriture de Xavier Giannoli.
Alors, le journaliste qu'incarne Vincent Lindon, Jacques, il enquête sur un personnage incroyable, et une comédienne aussi, qu'on découvre pour la première fois, Stéphane.
Il faut dire un mot de celle qui vous donne la réplique dans le film, Galatea Belugi, jeune comédienne absolument dingue, habitée par son rôle. Comment est-ce que ça a fonctionné avec elle sur le tournage? Est-ce que vous avez voulu et pu garder une distance hors caméra pour conserver justement cette magie? On a écouté l'extrait de la scène là-bas qui, tout à l'heure, qui est juste incroyable. Est-ce qu'il fallait chacun être de son côté pour que ça marche?
On n'a fait aucun effort pour ça. On était chacun de notre côté. On s'entendait très 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 bien. Énormément de courtoisie. Je pourrais être son père. Il y a des sujets sur lesquels on parlait à la cantine. Elle était là, j'étais là, on était à 10 mètres l'un de l'autre, 5 mètres l'un de l'autre. Elle avait sa vie, son portable, de temps en temps, elle téléphonait, moi je faisais d'autres choses. On se croisait le matin au maquillage. C'est des questions que je me pose jamais, mais j'adore venir à la radio et j'adore de temps en temps les interviews. Vous m'apprenez un nombre de choses et vous me posez un nombre de questions que je ne me suis jamais posées quand je faisais le film, qui en même temps me font très plaisir parce que j'y réponds et en même temps me foutent un vertige incroyable parce que je repars et je me dis, mais donc je suis complètement idiot, quoi. Je ne me pose aucune question, mais oui, il a raison, mais j'avais jamais pensé à ça du personnage, mais j'avais jamais pensé à ça non plus. Oh, je suis un acteur complètement idiot.
Ou peut-être Vincent Lindon, vous avez en effet cette capacité à nous faire croire au personnage que vous incarnez. Allez, on marque une pause dans ce Laissez-vous tenter et juste après, nous continuons à parler avec vous de l'apparition, le film de Xavier Genoli.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Vincent Lindon est notre invité ce matin avant la sortie mercredi au cinéma du film L'Apparition de Xavier Genoli. Alors, on ne va pas dire pourquoi, mais dans la dernière partie du film, Jacques, votre personnage, est amené à se rendre dans un gigantesque camp de réfugiés à la frontière jordano-syrienne. Les scènes ont été tournées dans un véritable camp. Ce n'est pas un décor. On se demande simplement, Vincent Lindon, comment on ressort, non pas en tant qu'acteur, mais comme être humain, d'une pareille expérience.
Je suis bien content de vous poser la question. Elle est très difficile, il faut que je la prenne avec des pincettes pour ne pas tomber tout de suite dans un discours de privilégié qui tout d'un coup voit le monde comme ça, deux jours, c'était agréable.
Merci d'en être conscient.
C'est très compliqué d'en parler. Donc je vais mettre des guillemets avant et dire, on peut le prendre comme un bobo qui dirait, ah c'est... Parce que ces gens sont charmants, avec des tons chamarrés, enfin tous ces trucs-là. Oh, j'ai passé deux jours extraordinaires. Donc je préviens à l'avance, hein, je le dis. C'est probablement, dans les 20 dernières années qui viennent de s'écouler, les deux jours dans le camp où je me suis senti le plus en paix et le mieux de toute ma vie. J'étais ébahi. Ce camp est d'une intelligence, d'une beauté, d'une humanité incroyable. On a mis dans la tête des gens, et c'est normal, que tous les réfugiés, ou la plupart des réfugiés, les migrants, tous ces gens-là, sont quasiment, à force d'écrire, à force de parler, quasiment proches du gueux. Non, il y a des médecins, il y a des chirurgiens, il y a des avocats, il y a de tout. Et tant bien même, il n'y aurait que des reprises de justice. Ils ont le droit, comme tous les hommes, à la dignité. Il y a 20 000 bungalows, chacun l'a personnalisé. Il n'y a pas une agression, il n'y a pas un vol. C'est inouï. J'ai vécu deux jours inouïs. Et donc, la phrase ridicule va donc arriver, je vais la dire, parce que c'est un raccourci de ma pensée. Il m'est arrivé de penser, pendant le tournage, au milieu du camp, elle est ridicule la phrase, je vous préviens, elle est choquante même, de dire, tiens, quand je vais rentrer, je vais en parler à mes enfants et je reviendrai bien avec eux, de voir si on pouvait habiter dans un bungalow avec des réfugiés, tellement je me sentais bien. En fait, ce que je pense, très sincèrement, c'est que dans beaucoup de pays d'Europe et du monde, on dépense plus d'argent à essayer de se protéger contre des gens qui sont inoffensifs qu'à les intégrer. Et ça me rend hystérique, ça me rend malade.
Vous l'avez fait ou vous le ferez ? D'y retourner ?
Ah ça, je promets que je vais y retourner. Ah oui.
Les metteurs en scène depuis une dizaine d'années de Vincent ?
Oui, on rappelle Stéphane Brisé, Jacques Doyon, Benoît Jacquot, Claire Denis, Fred Cavaillé, Philippe Lioret, Joachim Lafosse. Votre prochaine aventure de cinéma, Vincent, ça sera Un autre monde de Stéphane Brisé. C'est votre quatrième film ensemble. On est 3 ans après La loi du marché. Vous jouez, d'après ce qu'on a compris, moi j'ai rien vu encore, hein, le rôle d'un leader syndical qui est confronté à la menace de fermeture de son usine. Le citoyen Lindon, tiens, on va terminer par là. Est-ce qu'il est aujourd'hui, pardonnez-moi, plutôt le reflet d'une société en marche, ou est-ce qu'il incarne l'esprit d'une France insoumise ?
Le citoyen Lindon se demandait s'il allait éviter une question aussi, je vais dire, pathos et énorme.
Alors ?
J'en suis pas là. Je déteste les termes insoumis ou en marche. On n'est ni insoumis ni en marche, ça veut rien dire. Je suis beaucoup plus terre à terre que ça. Parce que c'est un monde où aujourd'hui, il y a des phrases que je supporte pas. C'est oui, monsieur le président, oui, monsieur le directeur, mais ça va pas être possible. Je comprends pas ce que ça veut dire, ça va pas être possible. Je vous dis qu'on va faire ça. Oui, mais ça va pas être possible. Mais on va se débrouiller. On va d'abord faire, et après on va trouver le moyen, pareil, rétroactivement, de trouver que ça soit possible. Donc vous allez me construire 194 univers carcéral nouveau en France pour loger les prisonniers qui sont mal logés. Oui, mais ça va pas être possible. Si, ça va être possible, parce que je vous le dis. Alors ça va être possible, on va le faire. Oui, mais il faudra retirer de l'argent par-ci, par-là. Eh ben, on va le retirer. Donc, il n'y a pas d'insoumis ou en marche. Il y a des choses comme ça. À Calais, vous allez me construire 200 baraquements. Oui, mais ça va pas être possible. Ces phrases-là, je peux pas les supporter. Je comprends ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi, mais je te trouve tout de même un peu sévère. Alors, t'es d'accord ou t'es pas d'accord? Et tout le monde, avec ces phrases-là, fait que, ben, ça va pas être possible.
Bon, bah, c'était l'ode à la nuance de Vincent Lindon.
Merci. Mais non, mais vous êtes pas d'accord?
Mais je refuse de répondre à votre question.
Mais je suis désolé. Pourquoi?
Parce que ben, je pense qu'on peut être en effet parfois un peu plus mesuré ou un peu plus nuancé, ce qui n'empêche, ce qui n'empêche pas d'avoir des convictions et éventuellement de les faire vivre. Mais je ne vais pas me lancer dans une conversation avec vous là-dedans.
Mais pourquoi?
Parce qu'on n'a pas le temps.
Mais en une phrase comme ça.
Parce que ça ne va pas être possible.
Vous avez vu comme c'est dur en une phrase? Vous êtes plutôt insoumis, vous êtes plutôt en marche, Yves Calvi?
On vous a laissé tranquillement répondre, que je sache. Vous n'êtes ni insoumis, ni en marche. Merci beaucoup Vincent Lindon
d'être passé
par Laissez-vous tenter ce matin sur RTL. Vous êtes à l'affiche mercredi du film L'apparition de Xavier Giannoli. Nous l'avons tous beaucoup aimé, c'est un film bouleversant. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
J'ai pas le vent, moi j'ai envie de...
Et dans quelques instants, le spectacle Bodyguard.
Tout de suite.
Et la télévision, il y aura notamment des petits chatons et des petits chiens-chiens. Hein, voilà.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Une idée de sortie à présent. Le spectacle musical Bodyguard vient de s'installer au Palais des Sports à Paris avant de partir en tournée dans toute la France dès le mois de mai. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez vu le show adapté du film à succès sorti, on le rappelle, en 1992 et qui avait séduit à l'époque près de 4 millions de Français en salle.
Oui, et qui commence comme ça. Ouverture explosive, déluge de lumière et de flammes, on est projeté dans un concert de Rachel Maron, superstar de la pop aux 25 millions de disques vendus au firmament de sa carrière. En sortant de scène, son équipe découvre une lettre de menace dans sa loge. Qui a pu y pénétrer? Son manager recrute alors Frank Farmer, nouveau bodyguard, un garde du corps. Histoire inchangée, mais la bande-son a été gonflée pour inclure d'autres succès de Whitney Houston, plutôt malin.
How will I know? Allez, Fletcher, montre-le.
Trentaine d'artistes sur scène, deux chanteuses seulement, c'est en cela plutôt du théâtre musical qu'une vraie comédie musicale, pas de temps mort. C'est d'une fluidité assez épatante, des panneaux mobiles ajoutent une vraie dynamique à l'intrigue, on passe d'une salle de répétition au manoir de la star, d'un studio d'enregistrement à un bar en quelques secondes. Deux heures de show où la star et son bodyguard se cherchent, ça commence plutôt mal.
Je veux qu'il dégage.
Franck a interdit à Rachel d'aller bruncher chez Charlie dimanche.
Plus de brunch le dimanche. C'est pour ça que tu m'as fait venir.
Ah non, ça va pas se passer comme ça. C'est ma maison, c'est ma vie, et je te dis que je veux qu'il dégage.
Il est en train de tout foutre en l'air, Bill. Rachel devrait être en train de se montrer partout, et au lieu de ça, il l'enferme à double tour.
Franck, est-ce que l'on pourrait essayer de faire quelque chose pour le brunch chez Charlie? Rachel a l'habitude d'y aller tous les dimanches depuis 5 ans.
Je veux qu'elle change ses habitudes.
Ce type est un grand malade.
Vous n'avez qu'à y aller mardi.
Le brunch du mardi matin. Sur quelle planète tu m'as trouvé ce mec?
Toutes ces affaires de brunch, dites-moi.
Oui, mais ça va se réchauffer avec le temps.
Je sais que c'est un peu tard, mais je voulais vous dire, je suis heureuse que vous soyez ici. Et je vais faire de mon mieux pour coopérer.
Ça serait pas une mauvaise idée.
Franck, j'ai un problème. Voilà. J'aimerais bien sortir, rien qu'une petite soirée, avec un homme. Rancard, quoi. Sauf que j'y ai plus droit. Parce que je n'ai pas une minute à moi sans que vous soyez là. Par exemple, si mon rancard voudrait m'inviter pour un dernier verre, vous feriez quoi, vous? Vous viendriez aussi? Du coup, je me suis dit que la seule option qui restait, eh bien, c'est que ce soit vous. Qui soyez mon rencard.
Le spectacle est très fidèle au long métrage de Mick Jackson. Benoît Maréchal interprète le rôle de Frank Farmer.
C'est une adaptation. Le film dure 2h30, donc évidemment, il y a beaucoup de coupes. Je pense qu'il y a une fidélité dans l'esprit original. C'est vraiment la rencontre, c'est vraiment cet amour impossible. Donc en ça, c'est complètement fidèle. Entre une superstar et un garde du corps, donc qui lui interdit, du fait de son métier, de s'abandonner à ses émotions. Maintenant, je pense que la force du spectacle, c'est de rendre les moments cultes du film, de les rendre sur scène, en même temps, en proposant d'autres choses. C'est-à-dire qu'on n'est évidemment pas obligé d'avoir vu le film ou de le connaître par cœur pour pour aimer le spectacle.
Patente Cilia, excellentissime dans le rôle de Nikki, la sœur de Rachel qui craque, elle aussi, pour le bodyguard.
Vous dites donc, oui, elle chante bien. Alors, est-ce qu'on arrive à oublier Whitney Houston? Parce que c'est ça la question.
Ah non, moi j'ai pas réussi à m'enlever sa voix de la tête, même si la Québécoise Valérie Dore fait le job.
J'avais vu le film dans les années 90 et j'étais fan et on m'a interdit de regarder le film. Et vraiment, on m'a demandé d'interpréter le rôle à ma façon. Donc oui, évidemment, Whitney Houston a été la première à prendre le rôle de Rachel Maron, mais vraiment, l'idée, c'est une adaptation francophone en plus, donc il fallait quand même s'en distancer et livrer quelque chose d'authentique, de différent, avec une artiste différente. En fait, c'est l'histoire d'une chanteuse qui s'est battue toute sa vie pour en arriver là où elle est. Voilà, il y a plein de petites fêlures dans le personnage de Rachel dans lesquelles je me suis trouvée.
Bodyguard, c'est au Palais des Sports de Paris jusqu'au 11 mars. Les prix de 22 à 94 euros en tournée dès le 19 mai avec des passages à Lyon, Nantes, Rouen, Toulouse, Dijon, Lille et Bordeaux. Quelques bémols, le jeu des acteurs est un peu faiblard parfois, certains dialogues poussifs, les chorégraphies sans intérêt alors que les danseurs sont très bons. Des plus, un orchestre qui joue en live, c'est ma grande mission pour les comédies musicales. Faut un orchestre sur scène, pas de bande son.
Vous avez raison.
Et s'il y a véritable révélation du show.
C'est ça, bon, on serait bien resté un petit peu quand même. Enfin bon. Alors,
ça,
merci beaucoup.
Je vais aller le voir tout de suite et après j'irai voir le film de Vincent Lindon parce que je sais que je vais pleurer. Donc d'abord je vais rire, après je pleure.
Ah ben c'est très bien, vous vous organisez comme vous le voulez. On va d'abord nous s'intéresser à nos audiences du week-end avec Médiamétrie, Isabelle Bourdieu.
Eh bien vendredi, toute petite victoire des touristes d'Arthur, 3 600 000 téléspectateurs, 15% du public, c'est peu. C'est 380 000 de plus à peine que le commissaire Magellan sur la 3 et 738 000 de plus seulement que les victoires de la musique qui en rassemblant 2 821 000 curieux font nettement mieux que l'année précédente.
Daphné
samedi,
Burki était formidable était en maîtresse
bien.
De cérémonie.
Oui, 9 robes. The
On
Voice.
Était heureux d'avoir notre Juliette Armanet, notre Charlotte Gainsbourg.
Voilà. Enfin, bon, voilà. Alors The Voice, la une toujours samedi, peut en revanche se vanter de rassembler près de 6 500 000 fanas. Devant Cassandre, deuxième sur la 3. Le The Voice est nettement en hausse. Devant Cassandre, deuxième sur la 3. Quant à hier, le Labyrinthe de TF1 film passionne 5 905 000 personnes contre 3 520 000 pour le polar Brokenwood sur la 3. Les choristes sont donc troisième seulement. Mais en même temps, il y a eu plusieurs rediffusions. Hein.
Alors, on passe à notre soirée de télévision. J'ai évidemment noté le spécial, la spéciale de France 3 sur les chatons et les chiots de leur naissance à leur adoption.
Exactement, c'est dans le monde de Jamy, c'est un monde très joli, mais pas seulement. C'est bourré d'infos sur cette période qui permet aux chiots et aux chatons de se construire. Là où nous mettons 20 ans pour devenir adultes, eux mettent quelques mois seulement. Notamment les chatons qui sont pourtant aveugles durant les 15 premiers jours de leur vie. Vous découvrez que les mères sont de véritables instits. C'est super instructif que vous ayez un animal ou pas. On apprend ainsi en observant la chatte Nettie qui passe 4 heures par jour à lécher ses petits, que ce n'est pas seulement pour les laver, mais aussi parce que sous l'action du léchage, le cerveau des chatons sécrète de l'endorphine, une hormone apaisante contribuant au bien-être. Un chaton bien léché devient un chat équilibré. C'est aussi vrai pour le chat adulte qui se lèche pour se rassurer après une épreuve stressante. Échantillon, Jamy et sa nouvelle partenaire Églantine Meillet, elle est absolument épatante, discute avec un veto comportementaliste d'une habitude précise qu'ont les chats que nous aimons bien tous les deux.
Oui.
Je voulais qu'on parle de ce truc que je trouve trop mignon. C'est le bébé chat là qui est en train de patouner, je crois.
Ça s'emploie beaucoup, patouner, il pétrit. Ça.
Il pétrit en tétant.
Ouais. Là, mécaniquement, c'est facile de comprendre que le pétrissage, il va permettre l'éjection plus facile du lait. Et c'est quelque chose que les chats gardent à l'âge adulte. Et quand ils sont très bien sur quelqu'un...
Et oui, ils le gardent à l'âge adulte, j'appelle ça pitronnier. Oui. Donc c'est à 20
ans... Mon vieux chat, il patoune tous les soirs.
Oui, faites ce que vous voulez.
Bon, pardonnez-moi.
C'est formidable émission, et Églantine Émeillet, vraiment pour une première, parce que l'habituelle tenante du titre est en congé de maternité, est absolument épatante.
Alors, il y a aussi des fictions, d'abord sur la 2, la 7e saison de Rizzoli and Isles.
Oui, dernière saison de cette série à succès, mettant en scène la flic Jane Rizzoli et la légiste Maura Isles, sorte d'amicalement votre femelle. Mm-hmm. C'est une bonne série, alors il paraît qu'à la fin, elles finiront peut-être ensemble. Attendons 13 épisodes avant de savoir. Ah bon ? Et de toute façon, on reviendra dessus, parce que l'événement, c'est en face sur M6, un scène de ménage à 20h50, qui suit le format court à 20h25. On rappelle le principe, on suit le quotidien de 5 couples de générations différentes qui ne se rencontrent jamais, comme des droits de parallèle. L'audience est toujours là, quasiment 4 millions de fidèles au quotidien. C'est le programme le plus regardé par les moins de 50 ans sur cette tranche. Ce soir, nos couples sont envoyés dans les îles. Pour Philippe, le pharmacien Quinca, tout commence un matin par une conversation avec sa compagne.
Mon doudou, il y a ton père qui a appelé.
Ouais, alors ?
Je suis pas sûre d'avoir tout pigé, mais d'après ce que j'ai compris, il voudrait s'excuser de t'avoir pris pour un con toute ta vie. Il voudrait savoir aussi si tu fais des teintures de temps en temps ou pas du tout. Il voudrait savoir si le lin, ça se fait encore et combien ça fait 20 000 francs en euros.
Il sort avec une jeune. J'y crois pas, il a une maîtresse, il trompe ma mère.
Attends, et à la fin, il m'a dit à plus.
Oh putain, elle a moins de 30 ans.
Voilà, le père de Philippe est en partie batifoulé sur les tropiques, il faut aller le raisonner. Pendant ce temps, Huguette et Raymond partent suite à un concours dans un palace de rêve au bout du monde. Voici la suite, entre guillemets.
T'as fait une demi-heure, je t'attends.
Je suis perdu.
Enfin, c'est quand même pas compliqué, Raymond. Tu sors de la chambre, c'est tout droit.
Dans la chambre, je me suis perdu dans la chambre. Je voulais aller aux toilettes. Ah, si tu savais, ma guéguette, je suis passé partout. Le dressing.
Et enfin, dernier échantillon, les trentenaires Bobo, Emma et Fabien, partis livrer stylos et crayons dans une école d'Amérique du Sud, se retrouvent paumés et livrés à eux-mêmes dans la jungle.
Oh, radeau de merde.
Ouais, bah c'était bien la peine de scoltiner les aventuriers de l'extrême toutes les semaines.
Qu'est-ce que tu dis, hein ?
Je dis, c'était bien la peine de scoltiner les aventuriers de l'extrême toutes les semaines à la télé. Elle est où, l'aventurière de l'extrême, là, hein ? Elle est où ? On est paumés comme des cons, là.
Oh, tu te calmes, toi, hein ?
Non, je me calme pas. C'est ta peste d'aube tous les jeudis. Pour même pas être foutu de construire un radeau, de trouver à bouffer, je te jure que si on s'en sort vivant, tous les jeudis, on regardera les dessous de l'histoire.
Ah ouais ? Bah moi, je préfère crever ici tout de suite.
Voilà, 21h, M6, il n'y a plus les genoux Marion et Cédric qui, vous le savez, sont allés se faire voir ailleurs et ont quitté l'aventure scène de ménage et on attend un nouveau coup.
Merci Isabelle, dans un instant on accueille avec plaisir Julien Courbet. Ben voilà, on a passé une excellente matinée, merci à toute l'équipe et on est ravis maintenant de retrouver Julien.
Ben Julien avec Hervé Pouchol en direct de Bordeaux aujourd'hui. C'est
en
une
direct
spéciale.
De Bordeaux,
il
Hervé
va régler
Pouchol.
Deux cas sur place.
C'est luxueux.
Incroyable, vous voyez, c'est vraiment le nouveau RTL qui est en train de
se
profiler.
Oui, il fait des lignes de frais, Hervé
Il ne fait que ça d'ailleurs, je ne sais pas, à mon avis, il ne va pas faire grand chose au niveau d'auditeur, mais il va ramener des notes de frais, ça c'est sûr.
Moi je le soutiens, mais alors à 2000%.
Merci.
Allez,
on vous embrasse. Mais oui, mon Hervé.
Vous écoutez RTL.